Alors j'ai le privilège d'apporter la parole de Dieu ce matin. C'est vraiment une responsabilité, mais aussi une grande joie. En fait, dimanche dernier, j'étais à Paris pour prêcher le même message. Et j'ai aussi enseigné à la retraite des pasteurs de la ECM. Et hier soir, à la réunion des jeunes, donc je suis à mon 9e message. C'est formidable. On dirait que plus on prêche, plus la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous remplit. Alors ce matin, j'espère que ça va marcher. Il faut enlever le papier. Le message de ce matin est intitulé « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ». Et donc je vous invite sans plus tarder, bien-aimés, à tourner dans vos Bibles au psaume 127. Et j'ajouterai la lecture dans notre texte qui se situe en Matthieu chapitre 7, versets 24 et 27. Alors nous lisons dans le psaume 127, « Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard. » Et vous mangez le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. J'aimerais aussi que vous puissiez regarder avec moi en Matthieu chapitre 7, dans vos Bibles, Matthieu chapitre 7 et verset 24. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Prions s'il vous plaît. Notre Père, merci de ce que tu nous as écrit, cette lettre, cette parole de Dieu pour nous enseigner, pour marcher selon tes voies. Merci Père, ce matin, de parler à nos cœurs. Merci de te glorifier. Merci d'utiliser ta parole pour parler à nos cœurs et nous t'en donnons toute la gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. En fait, nous allons juste esquisser un certain résumé du psaume 127 et vous allez voir où je vais vous conduire si vous me permettez. Dans ce psaume ici, Dieu est au centre de la vie et il est souverain sur la vie quotidienne et sur la vie de famille. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je crois que la question de ce matin est celle-ci. Dieu est-il en train de bâtir votre maison ? Est-ce que vous avez choisi Dieu comme architecte pour bâtir votre maison ? Dans le psaume 127, la souveraineté de Dieu se voit dans quatre domaines. Au verset 1, on voit si l'Éternel bâtit la maison, il est question de la construction d'une maison. Ensuite, il est question, celui qui la garde la veille à propos de la ville, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Il est question ici de la protection d'une ville, on pourrait parler même de la défense civile. Un peu plus loin, du travail en général, et puis l'acquisition d'une famille. Mais dans le texte ici, je voudrais souligner qu'il y a trois fois le mot « vain ». Ça fait penser à l'Ecclésiaste qui dit « vanité des vanités, tout est poursuite du vent et vanité ». En fait, sans Dieu, les entreprises sont vouées à échouer. Nos entreprises humaines sont vaines. Dans chacun de ces domaines, l'intervention souveraine de Dieu est bien plus importante pour un bon résultat que nos efforts humains. Il y a deux façons de bâtir, avec Dieu ou sans Dieu. L'une consiste à bâtir de soi-même, on peut faire des plans, des calculs et à bâtir, et l'autre à laisser Dieu agir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit devenir passif. J'ai eu l'expérience de participer à la construction d'un bâtiment au Canada et ensuite d'une rénovation ici à Toulouse, vous le savez. Et je peux dire que Dieu fait toute la différence. On fait des calculs de budget, on fait des calculs de matériaux, etc. Mais construire la maison de Dieu, lorsque Dieu est présent, on assiste à son intervention surnaturelle. Et c'est incroyable la façon avec laquelle Dieu pourvoit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bâtissez-vous votre maison sur Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ici, le mot maison? Alors, dans l'Ancien Testament, ça signifie non seulement ceux qui habitent sous un même toit, c'est-à-dire la famille, aussi la maison de l'Éternel, le temple, mais la maison d'Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israélite, qui est considéré comme une famille dont Dieu est le Père. C'est merveilleux cela. Dans l'Ancien Testament, Israël est la famille de Dieu et a pour Dieu, pour Père, Dieu lui-même. Dans le Nouveau Testament, et on n'a pas le temps ce matin de regarder toutes les étymologies de mots, etc., et les versets, mais le mot maison signifie la famille aussi, et aussi l'Église, qui est la maison de Dieu. En fait, dans le psaume 127, ici, on peut dire, on pourrait échanger le mot maison par famille ou église. Et ainsi dire ceci, si l'Éternel ne bâtit l'église, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Est-ce que c'est biblique de dire cela? Mais oui, parce que la Bible dit ceci, et moi je te dis que tu es pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ainsi, c'est Jésus qui bâtit son église. Si l'Éternel ne bâtit l'église, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et on peut dire aussi, si l'Éternel ne bâtit la maison, entre parenthèses, famille, d'ailleurs, le mot bâtir en hébreu signifie former une maison, établir une famille, si l'Éternel ne bâtit la maison, la famille, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et c'est ce à quoi nous allons nous arrêter ce matin. Si l'Éternel, vous permettez que je dise cela pour le verset, si l'Éternel ne bâtit la famille, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Juste deux remarques avant de se lancer dans le sujet sur la famille. En fait, dans l'Église primitive, la famille était un facteur important de croissance et de stabilité. Dans les villes grecques, l'Église prenait naissance au sein des familles. C'est le cas de Lydie, c'est le cas du geôlier, de Philippe et sa famille. Mais c'est aussi, les maisons sont aussi la base de l'enseignement. La Bible dit en Actes 5, 42, « À chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » La famille est la clé, la base sur laquelle Dieu bâtit son Église. À plusieurs reprises, le Nouveau Testament mentionne des églises dans les maisons, dans l'Épître aux Romains, Corinthiens, Colossiens, Philémon. Alors, il peut s'agir d'un foyer qui se réunit au nom de Jésus-Christ ou l'église au sein d'une maison. Donc, nous arrivons, et c'est cette logique à laquelle je voulais vous emmener, si vous me permettez, c'est que Dieu utilise nos maisons, nos familles chrétiennes pour bâtir son église. Et puisque Dieu bâtit son église au travers des familles, quel est le type de famille que Dieu utilise pour bâtir son Église? Et ce matin, j'aimerais ensemble que nous puissions esquisser, parce qu'on a juste quelques minutes, le portrait d'une famille qui bâtit avec Dieu, qui plaît à Dieu. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est une famille qui se bâtit selon le plan de Dieu. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est une famille qui connaît le rôle de chacun et s'y soumet. Et troisièmement, une famille dont les pratiques plaisent à Dieu. Ça y est? On y va? Alors, regarde ça ensemble. Tout d'abord, une famille qui se bâtit selon le plan de Dieu. Le verset clé ici que j'ai choisi se trouve en Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On est bien d'accord que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. On est bien d'accord que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et il a institué aussi le mode de fonctionnement. C'est lui qui a écrit un livre, la Bible, qui en est le mode de fonctionnement. Comment se fait-il aujourd'hui que tant de mariages, n'est-ce pas, sont voués à l'échec? Alors retournons au texte ici, si vous me permettez. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Le premier concept ici que nous avons, c'est l'idée de quitter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'un homme et une femme se marient, ils font de leur couple la relation prioritaire de leur vie. J'ai appris récemment par quelqu'un que dans un jeune couple, la maman ne cessait d'appeler sa fille tous les jours. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose à faire?
Non.
Voilà, nous élevons les enfants et un jour les enfants s'envolent, n'est-ce pas? Et on pense qu'ils sont mûrs pour voler de leurs propres ailes. Donc quitter tout d'abord, c'est de faire de sa relation homme et femme une priorité. Deuxièmement, la Bible dit « s'attacher ». Le mariage, selon Dieu, implique l'engagement total et fidèle de deux personnes l'une envers l'autre. S'attacher à l'idée, c'est d'être fidèle jusqu'à la mort, d'être fidèle dans le couple et de s'unir jusqu'à ce que Dieu nous sépare. Dieu nous sépare, pas l'homme. Et finalement, devenir une seule chair, c'est le mariage qui est l'engagement total et le partage total d'une personne tout entière avec une autre jusqu'à la mort. Une seule chair, cela veut dire non seulement que Dieu unit dans la relation sexuelle, lorsqu'il y a consommation, n'est-ce pas, après le mariage, mais aussi ça unit le couple de façon corps, âme et esprit. Alors, soulignons de suite que la famille est l'objet de l'attaque de Satan, des attaques de Satan. Si vous me permettez, quelques statistiques que l'on trouve en France. Premièrement, en 2011, il semble que le taux de divorce soit de 44,7%. En 2005, parce que c'est difficile d'avoir des statistiques trop en arrière, trop récentes, je veux dire, il faut aller un petit peu en arrière, il y a eu en 2005 155 253 divorces répertoriés en France, sans compter les séparations des concubins et les séparations des gens pacsés. Ça veut dire, un calcul tout simple, qu'il y a Il y avait en 2005 des gens divorcés, ça veut dire à peu près plus de 300 000 célibataires, aux environs de la quarantaine, qui sont devenus des candidats, parce que célibataires, à trouver l'âme sœur, avec des recompositions familiales, et de nombreux enfants qui sont élevés par un des deux parents ou aucun des deux parents. Il y a aujourd'hui 2 800 000 enfants qui sont élevés seulement par un des deux parents. La situation est parfois même extrême dans d'autres pays. Au Mexique, j'ai lu récemment, en fait c'était le point du fin de mois d'octobre, qu'au Mexique, vu le taux de divorce, tenez-vous bien, il y a 7 mariages sur 10 qui divorcent après un an de mariage. Donc il y a des députés qui ont dit, voilà, on va faire une loi qui va permettre d'établir un CDD pour les mariages. On fait un contrat à durée déterminée, un an, on fait les clauses en cas de séparation, etc. Eh bien, si ça marche, on le renouvelle une autre année, pourquoi pas une autre année. Mais la crise est grave. Savez-vous qu'en France, il y a 55% des hommes qui trompent leurs femmes, des gens mariés. Il y a 45% de femmes qui trompent leurs maris. Et 7% de ces hommes et des femmes ont une relation sexuelle homme avec homme, femme avec femme. C'est le portrait aujourd'hui de notre société. En fait, j'aimerais de suite affirmer une chose que la Bible mentionne constamment dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible ne donne pas de place aux relations sexuelles en dehors des liens du mariage. Au contraire, la Bible condamne la débauche. Le mot grec que l'on trouve dans le Nouveau Testament, porneia, est synonyme d'impudicité, d'infidélité, de prostitution, de relations sexuelles illicites, d'adultère, fornication, homosexualité, mœurs d'une lesbienne, pédophilie, relations sexuelles avec un proche parent, relations sexuelles avec un ou une divorcée. Aujourd'hui, croire et vivre la pureté sexuelle est à contre-courant et l'objet de sarcasmes et de moqueries. Il y a déjà bien longtemps, Billy Graham un jour a dit ceci lors d'un immense rassemblement en train de prêcher à des jeunes. Les héros de la foi aujourd'hui, ce sont les jeunes qui se gardent jusqu'au mariage. Il faut avoir une bonne dose de foi, n'est-ce pas, en tant que jeune, de se garder jusqu'au mariage, parce que la société leur offre exactement l'inverse. D'où l'importance de bâtir son foyer selon le plan de Dieu. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, qui fait la force d'une famille, c'est une famille qui connaît le rôle de chacun et s'y soumet. Peut-être avez-vous regardé récemment la Coupe du monde de rugby, ou, n'est-ce pas, les exploits de nos basketteurs, et vous suivez peut-être, n'est-ce pas, le championnat de foot de la Ligue 1 en France. Il est évident qu'une famille, c'est comme une équipe. Chacun a une place, chacun a un rôle. Chacun doit savoir exactement quel est son rôle. Or, il se trouve que dans la Bible, Dieu donne exactement le rôle à tout membre de la famille. Dieu a un rôle pour l'épouse, Dieu a un rôle, une responsabilité pour l'époux, Dieu a un rôle pour les parents, pour élever leurs enfants, et Dieu donne un rôle aux enfants aussi, et c'est ce que nous allons regarder brièvement pour commencer, une famille qui connaît le rôle de chacun et s'y soumet. Quelle est la responsabilité de l'épouse ? Alors nous allons lire ce que dit la Bible, n'est-ce pas ? C'est ça qui est important, de se baser sur ce que dit la Bible. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors Adam était bien malheureux, il se sentait très solitaire et il n'était pas fait pour vivre seul. Alors Dieu a créé la femme pour le compléter parce que l'homme seul est incomplet. Il a besoin d'être complété par une femme. Alors il y a ceux qui se rendent eunuques à cause du royaume des cieux, il y a quelques célibataires qui ont vraiment le don de célibat, mais c'est assez rare, et Dieu a fait que l'homme et la femme soient ensemble dans les liens du mariage, mais la femme est là pour compléter le mari, parce qu'il a besoin d'une aide semblable à lui. Et le deuxième texte que j'aimerais lire se trouve en Éphésiens, chapitre 5 et verset 22. Alors avant de peut-être penser sur quel terrain nous amène-t-il, laissez-moi terminer ce point et puis après vous évaluerez, d'accord ? Femmes, que chacune soit soumise à vos maris. Moi j'aime bien ça, hein ? Tous les maris ici sont d'accord. Attention messieurs, tout à l'heure ce sera votre tour. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ah, heureusement qu'il y a ça, hein, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est incroyable que Dieu, n'est-ce pas, dans sa grande sagesse, ait comparé l'amour de Christ envers son Église et la relation familiale de l'époux avec l'épouse. Qu'est-ce que ça veut dire de se soumettre en toutes choses ? La soumission n'est pas un concept aujourd'hui populaire. Je me souviens avoir rencontré une dame qui était en concubinage à Québec et après avoir été mariée X années, elle a dit au moins, monsieur, jamais je me remarierai. Et elle a raison quelque part, dans un sens, puisque les statistiques à Québec nous disaient que 75% des gens divorcés qui se remariaient, redivorçaient à nouveau. Alors elle disait, non, moi j'avais un mari, c'est un petit dictateur à la maison, alors ne me parlez pas de soumission. Mais la soumission n'est pas un concept biblique négatif, c'est un concept biblique positif. D'ailleurs, en Éphésiens chapitre 5, verset 21, après qu'il nous ait dit d'être remplis du Saint-Esprit, vous soumettant les uns aux autres. Un des fruits de la plénitude du Saint-Esprit, c'est la capacité chez le croyant de se soumettre. Et donc, la soumission demande, c'est vrai, un état spirituel de plénitude. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer, ce n'est pas quelque chose que l'on peut obliger, c'est un acte volontaire d'accepter de se soumettre. En fait, la Bible dit que nous sommes tous égaux, qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Mais regardez ce qui se passe en 1 Corinthiens 11, verset 3. La Bible dit que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. On sait que Jésus-Christ est Dieu, parfaitement homme sur la terre, mais la Bible dit qu'il s'est soumis à Dieu le Père et qu'il a joué ce rôle en tant que fils de Dieu, d'être dépendant de Dieu le Père, et toute sa vie sur terre, n'est-ce pas, Jésus-Christ a manifesté une dépendance absolue envers Dieu le Père, une soumission totale envers celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas ma mission, c'est sa mission. Ce n'est pas mon message, c'est son message. Ce ne sont pas mes œuvres, ce sont ses œuvres. Ainsi, Christ lui-même nous a montré l'exemple à suivre d'une soumission parfaite. Le concept de la soumission est un concept de Dieu positif dans les Écritures. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que l'on peut obliger, c'est quelque chose que l'épouse accepte parce qu'elle a un rôle d'aide envers son mari et de soumission en toutes choses. Un jour, j'étais au Québec avec un foyer et la dame me faisait comprendre que c'est elle qui portait les pantalons, en train de me suggérer que son mari était un vrai incapable. Mais je lui ai lu ce verset, « Femme, que chacune soit soumise à son mari ». Son mari était très reconnaissant. Parce que la Bible ne fait pas d'exception, n'est-ce pas? C'est chaque femme qui doit se soumettre à son mari. Peu importe le caractère de la femme, peu importe le caractère de l'homme. Il y a des femmes qui, n'est-ce pas, pensent qu'elles doivent dominer leur mari ou prendre autorité sur leur mari. Il n'y a pas de plus tableau, j'allais dire horrible, exécrable, qu'une femme, en public d'autant plus, domine son mari. Vous êtes d'accord les maris? Mais les femmes aussi, vous devriez l'être. Parce que vous devriez plutôt encourager votre mari à être une aide et certainement pas prendre une position d'autorité, de domination, mais un esprit doux et paisible, ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Et être une aide envers votre mari. Alors les épouses, voilà le message de Dieu en résumé, n'est-ce pas? Il faut lire toute la Bible pour voir votre rôle. Quel est le rôle du mari? Le mari, nous dit Éphésiens, toujours le même texte, est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Une épouse soumise, mission impossible sans être remplie du Saint-Esprit. Un mari qui aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, mission impossible sans être rempli du Saint-Esprit. Car Christ, lorsqu'il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Le rôle du mari, c'est de favoriser la vie spirituelle de son épouse. Et par la parole de Dieu, vécu par la parole de Dieu, enseigné, favoriser les choses spirituelles au sein du foyer. Il est celui qui doit diriger le foyer. Il est le chef de la maison. La Bible dit, à propos de l'ancien, l'épiscopos, le surveillant, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. En fait, il y a deux concepts ici que la Bible nous souligne. D'abord, le mari est un chef, mais aussi un serviteur. Il doit diriger, servir. C'est un leader-serviteur. Et aussi, il doit aimer. Être un leader, être un serviteur et aimer. L'exemple de l'humilité du service, évidemment, c'est le modèle parfait. C'est celui que Dieu nous a donné en Christ. Il est écrit en Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8, que Christ s'est humilié en s'incarnant. Il a accepté cette humiliation. Dans le texte ici, il y a sept étapes jusqu'à l'obéissance de la croix. Christ est venu non pour être servi, mais pour servir. Ensuite, en Matthieu, il est écrit qu'il est venu pour donner sa vie. Et en Jean 13, lorsqu'il a nettoyé les pieds de ses disciples, il a montré, la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour en ayant cet esprit de service et d'amour jusqu'à laver les pieds de ses disciples, alors que d'habitude c'est le serviteur à la maison qu'il faisait pour montrer qu'il était là pour servir. Et puis il a dirigé les disciples, il les a recrutés, il les a formés, il les a envoyés. Jésus-Christ est à la fois un leader, il a montré l'exemple de ce qu'un leader en étant serviteur. Et puis la Bible dit que le mari doit aimer sa femme comme soi-même, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Un jour, Spurgeon a dit, « Je ne sais pas si je mourrai martyr, mais je sais qu'à ce moment-là, par la grâce de Dieu, Dieu m'en donnerait la force. » Mais il y a un autre aspect, n'est-ce pas, de la mort à soi-même pour le mari. On dit que les maris sont souvent égoïstes, c'est peut-être possible, n'est-ce pas, qu'ils doivent mourir à eux-mêmes. D'abord, penser à l'autre. D'abord, penser à l'épouse, au bien-être de l'épouse, à mourir à soi-même pour prendre, aimer sa femme comme il s'aime lui-même et aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Alors, il y a tout un programme, messieurs. Marie, soyons au pied de la croix et confessons que notre mandat pour toute notre vie, c'est d'aimer notre épouse. Peu importe ce que l'épouse traverse, n'est-ce pas, lorsqu'on se marie, on s'engage avec des vœux d'aimer jusqu'à la mort. C'est un engagement volontaire. Aimer, c'est un acte volontaire. Quelle est la responsabilité des parents? La Bible dit que les parents devraient élever les enfants selon Dieu. En Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7, Dieu disait déjà aux familles en Israël qui devraient intégrer Dieu dans tous les domaines de leur vie, que tu te couches, que tu te lèves, que tu partes en voyage. C'est merveilleux d'enseigner les enfants au sujet de Dieu. Vous savez, les jésuites, pour contrecarrer la réforme, qu'on appelle la contre-réforme, disaient « Donnez-nous un enfant jusqu'à 6 ans et après faites-en ce que vous voudrez. » L'influence, l'impact des enfants est énorme, énorme, l'impact des parents sur les enfants. Et la Bible dit que nous sommes responsables d'élever nos enfants selon Dieu. En fait, ce qui est frappant, c'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a que deux versets qui parlent de l'éducation des enfants. Et ces deux versets s'adressent au père. Je vous lis un de ces versets, Éphésiens 6, verset 4. On va s'y attarder un petit peu. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » La Bible s'adresse particulièrement aux pères. D'ailleurs, comment se fait-il que dans le Nouveau Testament, il n'y ait que deux versets sur l'éducation des enfants, alors que le sujet est tellement, tellement important? C'est qu'il y a toute l'autre partie de la Bible, n'est-ce pas? L'autre tranchant, l'épée à double tranchant, Ancien et Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a plein d'enseignements sur l'éducation des enfants. Prenez le livre des Proverbes et soulignez dans le livre des Proverbes tout ce qui a trait à l'éducation des enfants. Vous allez avoir un modèle, n'est-ce pas, de guide pédagogique pour élever les enfants. Mais en lisant tout le livre des Proverbes, vous allez voir que Dieu s'adresse essentiellement au père. Dieu tient responsable le père de l'éducation des enfants. Et les pères, nous serons jugés un jour devant Dieu, parce que nous sommes les chefs du foyer, nous serons un jour jugés devant Dieu de la façon avec laquelle nous avons élevé nos enfants. J'ai marqué trois points ici rapidement parce que on ne peut pas développer chaque chose, n'est-ce pas? Mais le père doit diriger sa famille dans les voies du Seigneur. Le père doit être un exemple de foi et de piété. Le père doit discipliner les enfants et établir des règles équilibrées pour élever ses enfants et les corriger. La Bible dit que celui qui est son fils ménage sa verge, la verge de la correction. Il est clair dans la parole de Dieu que le châtiment physique sur les enfants fait partie de la pédagogie à exercer sur les enfants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si vous ne croyez pas cela, vous avez un problème avec Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu nous châtie, nous, ses enfants. Et c'est la preuve qu'on est enfant de Dieu. Hébreux chapitre 12. La Bible dit qu'on doit châtier nos enfants, mais de la bonne façon. Il y a la fessée culturelle, la fessée que les gens donnent sous réaction, impulsion, colère, qui fait passer, n'est-ce pas, le ressentiment ou la colère du père ou de la mère. Mais il y a la fessée au bon endroit, bien sûr, avec quelque chose qui pince, mais pas avec ses mains ou violemment, et qui implique une certaine douleur à l'enfant pour lui montrer la voie de la vérité, la voie de la pureté, la voie, n'est-ce pas, de la droiture. Il vaut mieux discipliner un enfant lorsqu'il est jeune que lorsqu'il a déjà poussé après des années tout de travers. C'est beaucoup plus difficile comme un arbre qui a poussé, n'est-ce pas, de travers après des années. Il faut savoir redresser les enfants. D'après ce que nous pouvons lire ou comprendre, 90% du châtiment physique qu'on devrait exercer en tant que parents sur nos enfants devrait avoir lieu entre 0 et 6 ans. Nous devons apprendre à exercer le châtiment physique avec douceur, avec amour, avec retenue, avec discipline, comme un exemple de piété, de droiture qui est le reflet du caractère de Dieu. Alors c'est un sujet peut-être délicat, qui est parfois mal compris, parfois mal appliqué, mais Dieu nous demande d'exercer la discipline sur nos enfants et le Père est celui qui doit donner un cadre et des règles établies, équilibrées, afin que les enfants soient heureux. D'ailleurs, je vous recommande fortement de lire le livre de Dobson, « Oser discipliner ». Et puis, je peux juste dire, on pourrait parler assez longtemps là-dessus, que j'ai remarqué que les enfants qui sont disciplinés et qui ont un cadre de vie sont heureux. Lorsqu'un enfant devient roi chez lui, lorsque les parents sont obligés de demander « Veux-tu aller là? Veux-tu manger? Veux-tu passer à table? Est-ce que cette nourriture te plaît ?» et qui font de l'enfant un enfant roi, l'enfant est comme perdu, déboussolé et va vers une vie d'irresponsabilité, de manque de maturité et parfois jusqu'à la délinquance. Alors c'est tout ce qu'on peut dire à l'instant ce matin parce que le sujet est très vaste, n'est-ce pas, sur l'éducation des enfants. La troisième responsabilité, c'est celle des enfants. L'épouse, le mari, les parents qui élèvent les enfants, puis la responsabilité des enfants, quelle est-elle? Elle est précise. La Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Obéir ici, c'est à l'idée d'écouter attentivement. C'est se mettre sous les paroles et l'autorité des parents. Et honorer littéralement dans le grec signifie évaluer avec haute estime. D'ailleurs, c'est un mot que l'on retrouve dans l'estimation de Dieu envers son fils Jésus-Christ et de Jésus-Christ envers Dieu le Père. Donc le mot honorer est un mot très élevé dans le respect et la soumission, l'obéissance. En fait, encore une fois, l'enfant n'est pas le centre de la famille. Lorsqu'un enfant naît, il est le bienvenu au sein du foyer, mais la priorité relationnelle, c'est papa et maman ensemble. Et ils entourent un enfant nouveau-né, mais l'enfant n'est pas le centre du foyer. L'enfant est un membre qui vient au sein du couple. Et quand l'enfant part, le couple se retrouve seul, sans enfant, mais ils ont élevé les enfants parce que Dieu leur a prêté des enfants, pour les élever et qu'un jour ils quittent la maison, c'est le but qu'ils quittent le foyer et qu'ils fondent leur propre famille. Mais l'enfant n'est pas roi et l'enfant doit apprendre à obéir, à se soumettre et à respecter. Pourquoi les professeurs disent qu'ils passent la moitié de leur temps, lorsqu'ils enseignent les cours à l'école, à corriger, à exercer, ou ils essayent une certaine autorité pour avoir la discipline de l'école, afin d'avoir l'attention des enfants? Parce qu'il n'y a plus de discipline à la maison. Les parents n'exercent plus l'autorité parentale et les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes et ont perdu des repères. Et donc les enfants manquent de respect envers les pères, P-A-R-S, les autorités, les gens qui les environnent, jusqu'aux professeurs. Et on a assez de scandales et d'exemples, n'est-ce pas, en France, de ce qui se passe dans les écoles où même des élèves réussissent à battre leurs professeurs. Enfin, la troisième tranche, alors la première c'était une famille qui bâtit selon le plan de Dieu. La deuxième, c'est une famille qui connaît les rôles de chacun et s'y soumet. Je dis bien s'y soumet, volontairement. Et le troisième aspect, c'est une famille qui pratique ce qui plaît à Dieu. Alors, j'aimerais donner quelques traits d'un tableau, n'est-ce pas, esquissé. Vous complétez le tableau chez vous, vous exercez chez vous les pratiques spirituelles qui plaisent à Dieu. Mais j'aimerais vous en donner plusieurs. Alors, je ne vous dis pas le nombre, je ne vais pas vous effrayer. Allons-y ensemble, d'accord? Il y a la locomotive qui est Christ, on est au premier wagon. Je pense qu'une famille qui pratique ce qui plaît à Dieu est une famille tout d'abord qui cherche à glorifier Dieu, qui aime Dieu et qui cherche à porter toute la gloire à Dieu. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Une façon de glorifier Dieu en tant que parent et en tant que famille, c'est de transmettre l'héritage spirituel, non seulement du salut, mais de la connaissance de Dieu, des Écritures, de Jésus-Christ, à la nouvelle génération, afin qu'ils soient encore plus efficace et plus connaissant dans les choses de Dieu que nous, les parents. On devrait avoir l'ambition de glorifier Dieu pour transmettre un héritage spirituel qui va même se multiplier dans les générations. Une chose, rapidement, qui m'attriste beaucoup personnellement, c'est quand je vois une première génération, et je l'ai sous les yeux, une première génération de gens qui acceptent le Seigneur, qui sont remplis du Seigneur, mais quelque part qui acceptent quelques compromis du monde dans leur vie. La deuxième génération, les enfants se convertissent, j'allais dire, plus ou moins. Peut-être marchent-ils avec le Seigneur, peut-être certains sont chrétiens, d'autres non. Ils se marient des fois avec des non-chrétiens. Et la troisième génération, ils ont une teinte chrétienne, mais ils ont oublié Dieu. Exactement comme le peuple d'Israël, n'est-ce pas, à la sortie d'Israël, du temps des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ces crises n'interviennent pas. Il y a rupture de l'héritage spirituel. Parents, famille, foyer, mettons-nous à genoux, ayons cette ambition que l'héritage spirituel de la vie éternelle, de la connaissance de Dieu et de Christ soit transmis à nos enfants avec une multiplication de connaissances, de consécration et de joie dans le Seigneur. Une deuxième pratique, il me semble, c'est d'avoir continuellement la recherche de la face de Dieu. En tant que foyer, nous avons le privilège, lorsque nous connaissons le Seigneur, de dire ce que disait en 1 Chronique 16, 11, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Il n'y a rien de plus beau que d'entrer dans une famille qui soit à genoux ou qui cherche constamment la face de Dieu parce qu'elle cherche la communion avec Dieu. C'est beau lorsque les membres peuvent ensemble chercher la face de Dieu. Qui est Dieu ? Soyons ambitieux, frères et sœurs. Apprenons à connaître continuellement Dieu et à le chérir, à l'aimer pour ce qu'il est vraiment. Troisième aspect, c'est une famille qui marche dans l'amour. On connaît bien sûr le verset de Jean 13 où Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Il n'y a rien de plus beau sur cette terre que de voir une famille qui s'aime, dont les membres s'aiment. Un oasis de bonheur et d'amour dans un foyer qui donne envie aux autres à goûter. D'où est la source? Où est la source de cet amour? En Éphésiens, chapitre 4 à 6, l'apôtre Paul parle de la vie chrétienne comme une marche. Dans les premiers versets, il parle d'une marche digne qu'amène la paix et la croissance dans l'Église. Ensuite, il parle d'une marche à l'inverse de la marche païenne. Ensuite, il parle de la marche en nouveauté de vie qu'amène une nouvelle conduite. Ensuite, il parle, à partir du chapitre 5, de la marche dans l'amour. Ensuite, la marche dans la lumière, la marche dans la sagesse. Et lorsqu'un foyer vit tous ces aspects de la marche chrétienne, il est un exemple et donne envie aux autres. Combien c'est beau de voir une famille qui marche dans l'amour, dont les membres s'aiment et pratiquent la vraie charité biblique. C'est extraordinaire. C'est pour ça que nous parents, lorsqu'on voit nos enfants partir et s'envoler, on se cache pour pleurer, n'est-ce pas? Parce qu'on a passé des années à bâtir avec Dieu dans la vie de nos enfants. Et un jour, ils s'envolent, ils font de leur foyer, ils se marient. Et c'est merveilleux. Mais savez-vous quoi? Ils continuent à nous aimer. C'est extraordinaire. J'ai un de mes enfants qui, quand il vient à la maison, marié, père, encore, il me prend dans ses bras et il me dit, « Papa, je t'aime. » Oh là là, quel beau cadeau, quelle belle récompense, n'est-ce pas? Je regarde son épouse, en espérant qu'elle ne soit pas jalouse quand même. Et il me dit, « Papa, je t'aime. » Et moi, je le serre encore plus fort. Maintenant, il est costaud, plus costaud que moi. Mais je le serre, je dis, moi aussi, je t'aime, tu sais. On est une famille unie. Et c'est beau, l'amour dans une famille. Quatrième aspect, frères bien-aimés et sœurs bien-aimées, une famille qui vit par la foi et la confiance en la souveraineté de Dieu face aux épreuves et à la tentation. Aucune épreuve nous est survenue qui était humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà, éprouvés de force, mais il préparera le moyen d'en sortir. À chaque circonstance de la vie, la famille fait face à un défi de la foi. Et lorsque dans la famille, nous sommes habitués à vivre de la foi et par la foi, et en Christ, la famille est élevée à vivre par la foi. Comment nos enfants vont-ils apprendre à vivre par la foi s'ils ne nous voient pas, nous parents, en train de vivre par la foi? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous devons apprendre à nos enfants à vivre par la foi en toutes choses. J'aimerais juste vous donner une anecdote parce qu'elle est personnelle, vous permettez un exemple personnel. Ma femme a accouché, on a 6 enfants, 5 garçons, 1 fille. La dernière, c'est une fille, c'est ce que la Bible appelle la persévérance des saints. Et un de nos enfants est né, et mon épouse était particulièrement fatiguée, nous n'étions pas bien riches, et à Québec, nous avions l'occasion, enfin pour Louise, d'avoir une chambre privée, lorsque les chambres publiques, avec 6 autres femmes qui venaient d'accoucher, étaient combles. Et parfois ça a marché, des fois ça n'a pas marché, mais une fois, la gynéco est venue me dire, « Monsieur Vigui, il faut absolument que votre femme puisse avoir une chambre privée, elle est fatiguée après ce dur accouchement. » Et ma femme est très courageuse, elle a des accouchements entre 17 et 27 heures, donc c'est pas évident. Et finalement, épuisée, on l'a mis dans une chambre privée, mais j'avais pas d'argent. Et je suis allé voir l'administration, j'ai dit, monsieur, pourriez-vous donner une chambre privée à ma femme, s'il vous plaît? C'était 40 dollars par jour, je ne les avais pas, donc 120 dollars, 3 jours. Et je suis rentré à la maison et j'ai regardé un peu dans les vannes, parce que la nuit avait été longue, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est la bien-aimée qui a le plus souffert, le plus enduré. Mais les papas, on est fatigués aussi après un accouchement. C'est très émouvant. Et je regarde la boîte aux lettres et je regarde, tiens, il y a un mot de l'église de Louise. Tiens, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Et j'ouvre l'enveloppe. Il y avait 120 dollars. Un chèque de 120 dollars. Mais un chèque de 120 dollars américains. Or, le dollar américain, alors, était plus élevé que le dollar canadien. Donc, Dieu nous a même donné des intérêts. Et on a raconté cette histoire aux enfants, comme une fois on n'avait plus de nourriture, on a invité quelqu'un, on a vidé le frigo, on n'avait plus rien dans le frigo. Et le lendemain matin, on ne sait pas qui nous a amené, on avait 2 paquets d'épicerie, haut comme ça, en face de la porte. Dieu nous donne de vivre par la foi. Et nous pouvons ressentir cela comme une épreuve, ou un tremplin de glorifier Dieu et de croire que l'Éternel pourvoira à tous vos besoins selon la richesse et la gloire de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est pauvre, Jésus-Christ? Il tient le monde dans sa main. Il a créé l'univers, ces milliards d'étoiles et de galaxies. Cinquièmement, une famille qui connaît la parole de Dieu, l'aime, l'observe et la met en pratique. « Enseigne-moi, Éternel, disait le psalmiste, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Est-ce que nos foyers, nos familles ont pour habitude d'être attachés à la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est le livre par excellence? Est-ce que nous lisons la Bible en famille? Est-ce que nous avons des plans adaptés à des cultes familiaux selon l'âge des enfants? Est-ce que c'est une habitude de vie d'ouvrir la Bible et de raconter des histoires et de lire la Bible peut-être à un moment donné, même de faire des livres en entier avec les enfants lorsqu'ils sont plus grands? J'ai un de mes enfants qui a lu toute la Bible alors qu'il avait 12 ans. À 12 ans, il avait fini de lire toute la Bible. Et je me suis dit, c'est une bonne idée si nos enfants pourraient finir de lire toute la Bible à l'âge de 18 ans. On emmène nos enfants à l'école, ils étudient toutes sortes de choses. Et pourquoi à 18 ans, ils n'auraient pas le bac, n'est-ce pas, de la lecture de toute la Bible? 66 livres, ils lisent bien plus dans leurs écoles. Quoique maintenant, la lecture, n'est-ce pas, c'est pas tellement de rigueur et en vogue. Est-ce que vraiment nous sommes attachés à la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes tellement attachés à ce livre que quand nous l'ouvrons, nous savons que Dieu nous parle, qu'il a quelque chose à nous dire? La solution que nous cherchons, c'est là, dans la parole. Sixièmement, voyez, la liste continue, rassurez-vous. Sixièmement, une famille qui sert Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pendant la retraite des pasteurs, j'ai fait un sondage auprès de mes 6 enfants. Je leur ai demandé quel a été le plus grand privilège d'être enfant de pasteur ou de couple pastoral. Quel a été le plus grand désavantage, le plus grand inconvénient? Et la plupart ont dit, voilà, un des gros avantages, c'est l'exercice à la maison de l'hospitalité, d'avoir des hommes et des femmes de Dieu de passage, n'est-ce pas, qui ont influencé nos enfants pour leur donner une vision, notamment, du ministère. En fait, il y a de la joie à servir le Seigneur ensemble dans l'Église, l'exercice des dons. Et la famille pastorale devrait être un exemple où les enfants, parce que régénérés, s'engagent dans l'Église. et exercent leur don, de même que chaque membre de l'Église a un don particulier. Il y a une place pour chaque membre et un don qui est propre à chaque membre. Et donc, chaque membre a une place et une fonction bien précise. Et cela devrait être communiqué notamment par l'exemple de la famille en général. Une famille, enfin, qui prie sans cesse en tout temps par la puissance du Saint-Esprit et qui rend continuellement grâce à Dieu. Un jour, j'ai un fils qui est venu me dire, « Papa, tu sais, je suis amoureux et je pense que c'est la bonne personne. » Alors, je l'ai regardé, je dis, « Oui, peut-être. » Il n'aimait pas que je dise ça. Et j'ai commencé à prier devant lui. Je dis, « Seigneur, si c'est vraiment ta volonté que ça se fasse, mais si c'est pas ta volonté, permets que ça s'arrête. » Et ça s'est arrêté. Et j'ai loué le Seigneur avec mon épouse. Parce que c'était pas la volonté de Dieu. Nous pouvons apprendre à remettre toutes choses dans l'esprit de prière. La Bible dit, priez sans cesse, rendez en grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque la famille loue le Seigneur, rend grâce à Dieu en toutes choses, il y a un esprit de foi, de joie et positif au sein du foyer. Parce que l'esprit de reconnaissance est là, l'esprit de louange envers Dieu. Cultiver un esprit positif de foi et de joie. Là, on dit famille unie, famille qui prie. Et Charles Spurgeon a dit ceci un jour. La prière en famille est un instrument de piété familiale et malheur à ceux qui la négligent. Huitième point. Une famille qui exerce la bonté, la compassion, le pardon réciproque. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'ai déjà donné cet exemple, si, excusez-moi pour certains, si je le répète. Un jour, mes enfants étaient à l'école, il avait de bonnes notes, et puis un jour est arrivé, était dans une école chrétienne au Canada, 16 sur 20. Je dis, c'est dommage, tu aurais pu avoir 19. Et là, il s'est mis à pleurer. Alors, je me suis aperçu, finalement, que je faisais exactement comme mes parents avaient fait. L'esprit de l'élitisme, réussir, être toujours au top niveau. Vous avez subi ça dans votre enfance. Moi, je l'ai pas mal vécu. Et j'étais en train de reproduire exactement la même chose envers mes enfants. Et j'ai compris par les larmes de mon fils que je faisais erreur. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis humilié devant Dieu et je lui ai dit, écoute, je te demande pardon, j'ai tort. Oui, c'est vrai, tu as des dons, tu peux réussir, mais tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Pas pour un cas d'élitisme, mais pour glorifier Dieu. Et maintenant, voilà, le but que tu as dans ta vie, et je prie pour ça, c'est que ta vie glorifie Dieu selon les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Nous pouvons, en tant que père, en tant que mère, demander pardon à nos enfants. Nous pouvons demander à nos enfants de demander pardon les uns envers les autres. Une fois, nous avions 6 enfants, comme je vous ai dit, il y en a un qui avait fait vraiment une bêtise. Et nous ne savions pas qui c'était, nous recherchions le coupable, n'est-ce pas, pour une condamnation pleine d'amour, mais une condamnation ferme et un châtiment ferme. Alors, personne ne se déclarait coupable. Donc, nous avons trouvé une ruse. Nous leur avons dit, nous les avons mis dans la chambre, leur a dit, voilà, vous avez 10 minutes pour déclarer celui qui est coupable. C'est terrible, cela. Et on a mis une petite oreille à la porte, c'était intéressant, non? Et finalement, il y en a un qui s'est déclaré et il a mérité ce qu'il devait. Mais nous avons appris à répandre un esprit non seulement de discipline, mais d'amour, de pardon réciproque. Si les parents sont humbles devant leurs enfants, ils peuvent demander à leurs enfants de demander pardon aux autres, les amis, les voisins et puis les parents. Il n'y a rien de plus beau que lorsqu'un enfant vient vous trouver, dit « Papa, excuse-moi ». Je me suis trompé, je te demande pardon. Maman, excuse-moi si je t'ai blessé, je te demande pardon, pardonne-moi. C'est le reflet d'un pardon exercé déjà dans le couple. Souvent, on a du mal à dire cette phrase, mais nos enfants nous ressemblent quelque part, non? Est-ce qu'ils exercent ce pardon, cette compassion, cette bonté? L'avant-dernier point, ça y est, ça vous va? Une famille qui vit dans l'humilité, avoue ses transgressions, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. C'est bon dans une famille lorsqu'on peut dire « j'ai tort ». Peu importe si c'est le père, la mère, n'importe quel enfant. Il n'y a personne qui a toujours raison. Et lorsque nous sommes dans l'humilité, que nous dépendons du Seigneur, que nous reflétons une marche avec Dieu dépendant du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se manifestent dans la vie d'une famille. Vous savez, lorsqu'on va en montagne, on voit les pierres qui sont polies, n'est-ce pas, avec les années, sous le courant d'eau, les torrents, avec l'eau transparente. Et on voit ces belles pierres qui même reflètent un peu le soleil et la transparence à travers l'eau. C'est assez beau. Mais vous savez, ça a mis du temps avant que les pierres se frottent les unes aux autres et deviennent ainsi polies. Eh bien, la politesse entre membres d'une même famille, ça prend du temps. Et des fois, les membres se frottent les uns aux autres. Mais quand c'est dans l'humilité, il y a le caractère de Christ qui se reflète. Il n'y a pas de plus beau que lorsque père et mère et enfant reflètent la plénitude du Saint-Esprit. Et enfin, une famille qui est remplie du Saint-Esprit et marche dans l'Esprit. Quelle joie de pouvoir chanter des cantiques ensemble, lire la Bible ensemble, porter le fruit de l'Esprit. Combien de choses passent tellement plus facilement dans une famille lorsque chaque membre est rempli du Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénité, la tempérance, la maîtrise de soi. Platon disait que la plus grande vertu de l'homme, c'est la maîtrise de soi. Lorsqu'il y a tout cela dans une famille, il y a une famille qui est bénie, qui est dans les rouages du Saint-Esprit. C'est merveilleux cela. Et puis un dernier point, si vous me permettez, et c'est un point qui n'est pas à négliger, une famille aussi qui sait résister au diable, qui sait prendre et revêtir les armes de Dieu, parce qu'on est dans un vrai combat spirituel. La Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Nous avons besoin d'apprendre à prier et à manifester la présence de Christ face aux attaques de l'adversaire. J'aimerais juste vous donner deux exemples personnels pour terminer. Une fois, ma femme et moi, on s'est retrouvés au bord du lit, c'est 3h du matin, l'un d'un côté, l'un de l'autre, sans savoir que l'un était en train de prier, l'autre était en train de prier. Jusqu'à ce qu'on découvre que tous les deux, on était assis de part et d'autre du lit, en train de prier. Je lève la tête, je dis, Louis, quelque chose ne va pas. Elle me dit, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, moi non plus, ça ne va pas. On s'était levé en même temps, parce que dans notre chambre, on avait ressenti la présence du diable. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'aime pas ressentir la présence du diable. Et nous avons prié. Et à l'instant où nous avons prié, le diable est parti. Et on a ressenti à nouveau la paix et la joie. Mais on ressentait la présence du diable. Et un jour, alors que j'avais fait une relation d'air, cure d'âme avec une personne particulièrement liée à des pratiques occultes, je me suis retrouvé à l'hôpital avec des maux de ventre terribles et les médecins ne savaient pas d'où ça venait. Et Louis a eu la bonne idée de faire une chaîne de prière avec l'église. Et elle priait pour moi, j'étais à l'hôpital attendant tous les examens, etc. C'est jamais trop facile. Mais par la grâce de Dieu, il y a un homme de 90 ans qui a accepté le Seigneur plus tard. Et j'étais donc sur mon lit, allongé, et je me suis assis, j'ai dit, Seigneur Jésus, si cette maladie ne vient pas de toi, si elle vient du diable, au nom de ton sang précieux versé pour moi, guéris-moi. Et à l'instant même, j'ai ressenti la présence bien-aimée de Jésus-Christ, son esprit, de la racine de mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. Et j'ai senti des vagues d'amour sous mon corps avec une guérison totale. Et quand les gens sont venus me dire, alors les examens, vous voulez les passer? Je dis, je suis pas sûr que c'est nécessaire, hein, parce que j'avais été guéri. Guéri par la puissance du Saint-Esprit, parce que mon épouse a prié, parce que l'Église a prié, parce que les enfants ont prié. Nous avons besoin d'apprendre, excusez d'avoir donné cet exemple un peu personnel, mais nous avons besoin d'apprendre à prier contre le diable et à protéger nos bien-aimés avec des forteresses d'amour et de spiritualité et d'exemple et de foi afin de protéger nos foyers contre les ruses du diable. Combien c'est triste parfois de voir des parents bouleversés parce que leurs enfants sont pris dans l'esprit de séduction de ce monde et du diable. On a lu aussi le passage en Matthieu 7 qui parle du roc. Le roc, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. L'homme qui entend et met en pratique les paroles de Christ, celui qui construit sur le roc. J'aimerais terminer en disant ceci, Dieu a un plan pour bâtir son Église. Dieu a un plan pour la famille, des familles fortes, des familles équilibrées, des familles joyeuses, des familles épanouies, pour des églises fortes, équilibrées et remplies de la joie du Seigneur. Une dernière question, si vous me permettez. Christ est-il au centre de votre famille? Prions, s'il vous plaît. Notre Père Céleste, merci de ces moments ensemble. Merci de ce que tu bâtis ton Église avec des familles qui bâtissent selon le plan de Dieu. Des familles qui acceptent leur rôle à chacun et se soumettent au rôle que toi, tu as défini dans les Écritures. Et une famille qui pratique des choses qui te plaisent, qui te sont agréables. Père éternel, c'est le moment pour nous de nous humilier et de te demander dans ta bonté de nous visiter dans nos foyers, là où nous nous trouvons, dans les choses de la vie, peut-être des personnes seules avec des enfants, des familles où des couples sont en difficulté entre mari et femme, en difficulté avec leurs enfants. Seigneur Jésus, interviens par ta puissance, guéris, manifeste-toi et apporte la paix. Nous t'en prions en ton nom. Amen.